affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Le 5 juin dernier, l'écrivain Kamel Daoud a reçu des mains de Mme Hélène Carrère-Dancausse le prix mondial Simone et Sino Del Duca. Pour le public français, Kamel Daoud n'est pas un inconnu. Nous sommes en effet nombreux à l'avoir découvert, voici 4 ans, lorsque son roman Meursault contre-enquête, une réinterprétation de l'histoire de l'étranger de Camus, vu cette fois du côté algérien, a été couronné du Goncourt du premier roman. Et comme Kamel Daoud n'est pas l'homme d'un seul livre, il y en a eu d'autres depuis. Zabor ou les psaumes, une fable sur le pouvoir de l'écriture, paru chez Actes Sud, et plus récemment, en octobre 2018, Le peintre dévorant la femme, dans lequel il raconte une nuit passée au musée Picasso, alors que s'y tenait l'exposition Picasso 1932, année érotique. Une belle occasion, bien sûr, pour lui de disserter sur ses thèmes de prédilection. La place du corps et du désir, le rapport à la femme, le dialogue entre l'Occident et l'Orient, entre le ciel et la terre, et peut-être à travers tout cela, plus que tout, une réflexion sur les voies du salut pour l'humanité. Autant de thèmes qui traversent son œuvre tout entière, y compris d'ailleurs les chroniques qu'il rédige depuis un quart de siècle maintenant dans des journaux aussi variés que le quotidien d'Oran, dont il fut le rédacteur en chef, le New York Times ou encore plus près de nous, Le Point, et que nous allons donc aborder à la manière d'une libre conversation, puisque, chers auditeurs, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Kamel Daoud aujourd'hui dans notre studio, afin tout simplement de faire plus ample connaissance avec lui-même et avec son œuvre. Monsieur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous.
J'ai oublié de préciser que le prix Simone et Sino del Duca est un prix qui est décerné pour distinguer une œuvre portant un message humaniste. Ce n'est pas rien. Comment vit-on cela, cette reconnaissance qui est à la fois une mission importante?
Écoutez, sans jeu de mots, je ne le vis pas comme une récompense pour ce que j'ai fait, mais comme le rappel de ce que je dois faire par la suite, de ce que je dois assurer, assumer, écrire et honorer. C'est une ligne qui m'est tracée, c'est une ligne d'horizon, plutôt que le prix de ce que j'ai déjà réalisé, écrit et défendu. Mais au-delà de ma personne, je pense qu'on est dans un moment de l'histoire aussi, et c'est une histoire cyclique où la figure de l'intellectuel dans le monde qu'on appelle arabe est une figure très importante. C'est une figure qui incarne une réflexion, une indépendance, une liberté, une idée de salut, mais qui est importante autant pour la géographie où je vis que pour vous en Occident. Vos compromissions sont nos désastres et cela va dans les deux sens. Et donc, c'est un prix qui est important pour moi, bien sûr, mais aussi pour les miens et pour ceux-là qui, dans nos géographies, essaient de défendre cette idée-là de l'humain qui va au-delà des croyances, des religions, des histoires et des credos des époques.
Je l'ai dit en introduction, dans l'ensemble de votre œuvre, vous êtes un écrivain algérien de langue française, nous y reviendrons bien sûr, comment ne pas le faire, non pas une part de la construction, car ce n'est pas artificiel, mais on sent l'importance des allers-retours entre Orient et Occident, la confrontation des idées, des enjeux aussi. Quelle forme prend-elle aujourd'hui? Vous parliez de compromission il y a quelques
années. Écoutez, d'abord, nous sommes deux géographies qui se font face à face, qui se tuent aussi, qui se sont tuées, qui essaient de donner du sens l'une à l'autre. Mais au-delà, j'ai quand même une position privilégiée. Vous savez, je répète depuis quelque temps que je suis un maghrébin. Et le mot maghreb, si on le traduit, c'est un mot arabe qui signifie occident. C'est-à-dire que pour les arabes, je suis un occidental. Mais pour les occidentaux, je suis un arabe. Donc j'ai une position de privilège, je suis entre les deux.
Vous êtes un passeur.
un passeur si l'on veut, mais aussi quelqu'un qui peut regarder dans les deux sens, qui peut relativiser les croyances, les choses, les vues, les certitudes surtout. Donc je suis dans une position de privilège, au final. Je suis l'occidental des uns, l'oriental des autres, je suis maghrébin.
Ce qui est effectivement frappant lorsqu'on vous lit, c'est que vous nous en apprenez beaucoup sur le Maghreb, beaucoup de clichés qui s'envolent, y compris des clichés bienveillants d'ailleurs, qui disparaissent sous votre plume, mais vous nous en apprenez aussi sur nous, avec un regard extérieur, décalé, décentré plutôt.
Oui, j'aime bien donner un nom à ce métier. Je me rêve occidentaliste, comme on dit orientaliste. Orientaliste, ça existe depuis des siècles. C'est aller vers cet Orient, aller à la rencontre de soi-même par le biais de l'autre, se voir l'autre à travers ses propres cultures, ses propres grilles, son propre bestiaire. Mais j'ai lu très peu d'ouvrages qui peuvent donner du sens à ce métier qui n'existe pas, celui d'occidentaliste, celui de venir en Occident pour voir comment vit cet Occident, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il défend. C'est-à-dire imaginer un orientalisme dans l'autre sens. Et j'aime bien venir en Occident pour le regarder, parce qu'il m'appartient, parce que c'est un objet de désir et de conquête aussi pour moi, de conquête du sens. Et j'aime aussi vivre sur mes terres, dans mon pays. Je sais que c'est une vie difficile, c'est un choix que j'ai fait, c'est pas un choix héroïque, c'est un choix de sens. J'ai besoin, comme je dis souvent à mes amis, j'ai besoin autant de mes amis que de mes ennemis. Parce que les deux m'aident à fabriquer du sens, réellement. J'ai besoin d'adversité pour construire du sens. Le confort ne me sied pas. Je ne pense pas que le confort soit une condition de la créativité, de la création. C'est une condition du bonheur, pas de l'art. Et cet inconfort-là, cette situation de passeur, comme vous dites, j'aime pas le mot, parce qu'il est... Il manque de barbarie.
Un peu mièvre.
Exact. Il manque de barbarie, il manque de vigueur. Il manque de ce côté de conquête et reconquête, de perte, de fracas, d'appropriation.
De friction.
De vandalisme, du sens, surtout. Et j'aime être dans cette perspective. Pour moi, le sens a autant de muscles que le corps. Ça se fabrique, ça se contracte, ça se travaille, ça se gonfle, ça se palpe. Et puis, ça peut s'écrouler, ça peut devenir trop tendre, ça peut disparaître, ça peut devenir faible, incarner la faiblesse. Donc, je suis un peu dans cette perspective. J'aime me croire occidentaliste quand je me promène dans les villes de l'Occident. Et j'aime définir ce métier qui n'est pas encore défini. Et j'aime pouvoir inventer des mots ou des récits, des chroniques, des textes, des phrases dans ce sens-là.
Est-ce que je peux lire un passage, à moins que vous vouliez le faire?
Ah non, faites-le, vous avez une très belle voix.
Le peintre dévorant la femme commence donc par une description des sentiments que vous avez lorsque vous arrivez à Paris. Vous me permettez de lire ce passage?
Allez-y, je vous en prie.
Le souci quand j'arrive à Paris est mon regard. Je ne sais où le poser. Je voudrais le mettre dans ma poche, sous mes aisselles, le ranger, devenir aveugle et courtois, mais il s'envole. Peu habitué au monde des images, je me retrouve à regarder partout. Des images, des baisers, des misères, des odeurs, des affiches et des reflets. Je voudrais posséder l'Occident, et je ne le peux pas. En octobre, Paris se rehausse et devient presque un chagrin, mais qui ne se confesse pas à vous. C'est comme si vous regardiez une femme éplorée de dos. Dans sa chute, elle trouve le moyen de ne pas être à votre altitude. Je n'en veux pas à cette ville, je ne suis pas de l'espèce gémissante qui en veut à l'Occident. Non, j'y viens en copiste du Moyen-Âge, en voleur d'angles et de possibilités. La nuit, cette ville est un néon et une histoire, un taxi et des cathédrales, une femme et un homme qui ont le même sexe et ne savent que faire. C'est un paradis où l'on comprend que l'on fait la guerre sainte pour rien et que les houris sont des illustrations et que les fleuves ne sont pas de vin mais peuvent vous pousser à en boire dans les bistrots. Bon, c'est très très beau.
Merci.
J'ai voulu lire ce passage car il illustre parfaitement le fait qu'à travers votre regard, nous renouvelons notre propre regard sur Paris et sur nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de ce que vous ressentez et ce que vous voyez? Vous dites que vous voudriez être occidentaliste. Aujourd'hui, docteur occidentaliste, que voyez-vous dans l'Occident?
Ah, vaste question. Qu'est-ce que je vois? Je voudrais dire des choses sincères tout en étant dans la délicatesse. Vous savez, je suis venu à Paris pour la première fois, j'avais 24 ans. Et croyez-moi, j'ai beaucoup lu en étant enfant. J'ai lu ce que j'ai pu trouver comme livre. J'ai énormément lu sur Paris. Et quand je suis arrivé, j'avais l'impression de marcher dans un livre. Je sais que la métaphore n'est pas très juste, n'est pas parfaite, mais marcher dans un livre. Je voyais des quartiers, je pouvais palper des pierres qui autrefois étaient des mots, des chapitres, des descriptions. J'avais le Paris d'Hemingway, d'Henry Miller, surtout vu par les Américains, ce Paris qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui des Parisiens, qui est un peu décalé, qui est érotique, qui a justement gardé ce souffle et cette tension de la conquête à faire, conquête féminine, conquête érotique et sexuelle, mais aussi une conquête du sens et de la réussite. Donc tout cela était comme une sorte de fantasme que je m'efforçais de revivre parce que je suis venu quand même 30 ans ou 40 ans en retard par rapport à ce Paris-là, mais c'était quelque chose de magnifique. Et je n'ai pas pu oublier ce que beaucoup de Parisiens oublient, c'est la splendeur de la ville, sa beauté. Et cette liberté des corps, je ne pouvais pas ne pas avoir un regard. Je regardais partout. Et peut-être que le fantasme d'un voyageur, c'est d'être invisible, d'être un passe-muraille, de traverser, mais le problème, c'est que j'avais un corps. Et donc, je posais ce regard, j'étais dans le métro, je regardais les gens s'embrasser, mais il fallait que je me rappelle les bonnes manières et pour chercher quelque chose d'autre à regarder. Donc, je regardais des affiches. C'était difficile de ne pas regarder cet Occident-là. C'était difficile de ne pas être ce regard-là. Mais le regard a une vocation étrange, ce qu'il se croit transparent, alors qu'il procède d'un corps. Celui qui regarde a un corps, donc les gens me regardent, moi-même, mais je l'oubliais. Et mon regard pouvait devenir incommodant. Donc c'est tout cela qui s'est un peu construit, qui se perpétue jusqu'à maintenant. Je reviens vers cette ville, je la regarde, je l'aime beaucoup. J'aime m'y perdre, j'aime y vivre, non pas les facilités d'un fantasme d'écrivain qui débarque ici, mais j'aime la vivre comme une sorte de palimpseste. C'est-à-dire, je retrouve des livres sous les pierres. Plutôt que le contraire. Je ne retrouve pas des livres ou des écritures sous des écritures, mais je retrouve des livres sous les pierres, sous les rues, les noms de rues, etc. Et j'aime ça. Et puis l'Occident, c'est un vis-à-vis pour moi. Qu'on le veuille ou pas, l'Occident, c'est Rome. C'est le lieu qui est à la fois un lieu de splendeur, de civilisation, mais un lieu de barbarie. J'aime bien une phrase que je cite dans le livre de Picasso que j'ai repris à partir du poste d'un internaute algérien qui disait « L'Occident, je l'adore, mais j'en ai peur quand il a faim ». Et cette image d'un monstre splendide qui à la fois fait mal, mais qui captive. On migre vers le nord, on ne migre pas vers le sud. Et j'aime bien regarder cet Occident dans ce qu'il a de fort, de puissant, de fascinant, mais dans ce qu'il a aussi de carnivore, de cannibale aussi. Parce que sa splendeur procède de ma dévoration, de mon écrasement, de ma dépossession. C'est le propre du musée, j'en parle dans cet ouvrage. Le musée incarne la vocation ambiguë de l'Occident. Si vous ne collectionnez pas, vous ne pouvez pas protéger. Mais si vous collectionnez, vous me dépossédez. Mais si je possède ce que je ne peux préserver, cela va être perdu pour toute l'humanité. Donc la richesse et la vocation de l'Occident procèdent de ma dépossession. Et donc, je regarde cet Occident avec passion, avec procès. J'aime contempler, j'aime réfléchir sa vie politique, son déclinisme. C'est une vocation de discours, je pense. C'est une passion. J'aime voir comment il se construit sa bonne conscience. Et j'aime voir aussi comment il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre la valeur absolue, la valeur juste et son revers. Il n'y a pas de bien sans prédation. Sans dépossession d'autrui, sans être le gardien de quelque chose. Si on est le gardien de quelque chose, c'est que l'autre n'est pas seulement un voleur, mais c'est aussi un dépossédé. Et tout cela, j'aime bien le revivre quand j'arrive à Paris ou je suis à Copenhague ou en Allemagne ou ailleurs. Mais j'ai traversé beaucoup de capitales européennes parce que j'ai écrit des livres et les livres ont voyagé. Mais elles sont différentes. On peut les voir comme des personnes. Il y a les villes anciennes qui ont perdu tous leurs éclats, mais qui ne sont plus qu'une histoire. Je parle de l'Europe de l'Est. Il y a des villes nouvelles, New York. Il y a des villes intermédiaires comme Paris, entre les deux. Elles n'ont pas d'âge.
Vous parliez du musée dont bien sûr le peintre dévorant la femme. Vous nous expliquiez que, quelque sorte, l'Orient n'aurait pas pu inventer le musée. Je voudrais que vous développiez cette idée qui est surprenante.
Le musée, d'abord, c'est une invention récente. Le musée, c'est la collection du plus fort, celui qui a vaincu. C'est la collection du vainqueur. Autrefois, c'était les riches, sinon les empereurs, sinon les rois, qui collectionnaient. La collection n'était pas ouverte au public. Sa transformation, son ouverture comme espace vers le public a transformé, je pense, la collection en musée. qui est devenu maintenant, disons, le lieu de la valeur, le lieu du temps, le lieu de la mort et de la vie en même temps. C'est là où on perpétue, mais en même temps, c'est là où on perpétue ce qui est déjà mort. Donc c'est une contradiction qui est fascinante. Mais c'est aussi un rapport au temps. Si je construis des musées, c'est que d'abord, j'accepte les différences des autres. Ces différences m'enrichissent. J'accepte la pluralité de l'histoire passée. J'accorde de la valeur. Je suis sûr de moi-même. Et j'ouvre cette richesse aux concitoyens, aux visiteurs, aux voyageurs, aux maraudeurs, quelque part. Et c'est un rapport plus ou moins conquérant vis-à-vis du temps. Mais qu'en est-il dans des géographies où le mieux, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce qui a été ? Et donc, si je consacre le musée, je consacre plutôt une sorte de version de l'histoire que je ne veux pas perpétuer. Je ne veux perpétuer que mon histoire à moi, mon âge d'or à moi, ma puissance à moi, mon image narcissique collective à moi.
Et quelque chose d'immobile, si je comprends bien.
Exactement. Donc, je refuse le temps. C'est un rapport au temps. Finalement, le musée, la capacité de construire et de concevoir des musées, c'est un rapport au temps. Et puis, c'est un rapport de tolérance. J'accepte que le passé fut un espace ouvert, un espace pluriel. Il y a eu des divinités, pas une seule, des livres, pas un seul livre sacré, des révélations, pas une seule révélation. Et je pense aussi, et ce n'est pas une métaphore, c'est que le musée existe là où on croit, ou peut-être qu'on a réussi plus ou moins à fabriquer de l'éternité, sinon de la pérennité. Mais le musée n'existe pas là où on croit que l'éternité viendra plus tard, pas maintenant. En Orient, l'auteur, le fabricant de l'éternité, c'est Dieu. En Occident, celui qui fabrique l'éternité, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme.
Vous avez insisté sur toute une série de pluriels, des histoires, des versions. Le titre que vous avez choisi, j'imagine, pour vos chroniques, ce sont « Mes indépendances ». Au pluriel, également. Est-ce que ça vous choque si je ne vais pas arranger votre cas, du coup? En fait, je vous vois, je vous vis comme une sorte de polythéiste.
Le polythéisme est quand même quelque chose de fascinant. Vous savez, vous parlez de pluriel, mais bien sûr, sur l'enfant du Dieu unique et du parti unique, vous pouvez comprendre ma vocation pour les pluriels du monde, pour les diversités, pour ce repos qu'apporte la diversité aussi. Donc, je n'aime pas ce qui est unique. Je n'aime pas l'idée de l'unicité, du parti unique, de la pensée unique, du Dieu unique, du livre unique. J'ai une allergie profonde, une intolérance profonde vis-à-vis de l'unicité. Polythéisme, paganisme, j'y vois une sorte de triomphe du corps. Les dieux païens ont des corps. Les dieux monothéistes n'ont pas de corps.
Pour le christianisme, c'est ambigu.
Ah ben, il l'a bien payé. Non, je pense que justement il incarne ce refus du corps plus que tout autre monothéisme. La crucifixion, c'est quand même, ce n'est pas un éloge du corps, ce n'est pas un amour du corps, on l'a transformé par la suite, on voudrait le transformer, mais moi je ne l'ai jamais vécu comme ça. Je l'ai vu comme un spectacle de souffrance et un rejet du corps. Les monothéismes sont un refus du corps. Par contre, les paganismes, tout ce qui est de l'ordre de l'univers du païen, c'est une reconnaissance du corps. Les dieux ont des corps. Ils veulent imiter l'humain. Les croyants monothéistes refusent leur corps. Ils veulent devenir invisibles comme leur dieu. Donc les uns veulent retrouver du corps, les autres veulent s'en débarrasser. Par le martyr, la crucifixion, l'ascèse, la vision, le pèlerinage, la mort, le martyr.
Dans cette démarche, on voit où se situe la véritable ligne de fracture. Est-ce que l'ensemble de votre œuvre ne tourne pas au fond autour de cette question, se réapproprier le corps, justement?
C'est une obsession. Ça se décline autrement, par l'écriture, mais aussi par des choix de vie, par des vocations, mais aussi par des choix par des passions, autres que l'écriture, par de l'admiration pour certains artistes, etc. Mais le corps, pour moi, est central. Le corps est la seule fortune. C'est ce que nous avons à la naissance, c'est ce que nous perdons à la mort. C'est ce que nous envie tout le panthéon. Des dieux, des diables, des anges, des demi-dieux, des prêtres, des mystiques. Tout le monde veut vous arracher ce corps-là. Et s'il n'y arrive pas, il vous pousse à le martyriser, à le refuser. Le salut s'obtient en marchant littéralement sur son propre corps. Donc non, la notion de corps, elle est fondamentale chez moi. C'est ce que j'ai. Quand je suis réduit, quand je suis dépossédé, j'ai toujours mon corps. C'est la seule transparence que j'ai. Je me vois de l'intérieur et je vois le monde à travers ce corps-là. C'est ma clé.
Vous écrivez, toujours dans Le peintre dévorant la femme, « Je savais que j'avais raison quand, adolescent, dans mon village, j'ai conclu que l'érotisme est la religion la plus ancienne, que mon corps est mon unique mosquée et que l'art est la seule éternité dont je peux être certain. » Vous êtes certain. Le rapport entre l'art et le corps. L'art, c'est le moyen de sauver le corps, alors de le magnifier. Et même l'écriture, j'ai été frappé que dans un autre texte qui sert d'introduction à un ouvrage dont je n'ai pas encore parlé et qui est très très récent, 50 histoires de livres sauvés, que vous avez coécrit avec Raphaël Jérusalemi et publié à l'Imprimerie Nationale. Dans ce très très beau texte, vous établissez un parallèle entre le corps et le corpus. C'est-à-dire que l'écriture elle-même se fait chair.
Absolument. Absolument. D'ailleurs, l'étymologie, elle est là. C'est-à-dire, l'origine des mots, la racine des mots, elle est là. C'est-à-dire, mon corps et aussi mon corpus. Pour moi, les deux. C'est lié aussi à une histoire personnelle. J'ai découvert la langue française aussi par l'érotisme. J'ai pu avoir ce besoin de développer la synonymie, de comprendre le sens des mots, parce que je voulais que les scènes liées à l'érotisme, à la sexualité, soient précise. Plus je maîtrisais cette langue, plus le baiser devenait, ou l'étreinte devenait plus net, plus clair. Je comprenais comment on embrassait. Mais moins je maîtrisais cette langue, moins je comprenais qu'est-ce qui se passait, comment on embrassait. Et à la limite, je suis arrivé à cette métaphore qui paraît être un jeu de mots facile, mais réellement, on n'embrasse bien qu'avec la langue. Et pour moi, c'est la langue française. C'est elle qui m'a permis d'avoir une vision du corps d'autrui. Je lisais des passages, j'avais 9-10 ans. Et en même temps, c'est cette langue qui m'a permis de prendre conscience de mon propre corps. Je suis l'enfant d'un pays où le corps est refusé. Alors, nous avons le choix entre deux corps. Le premier, c'est le cadavre. C'est celui des martyrs de la guerre d'indépendance. Je suis né dans un univers où on fait l'éloge du martyr tout le temps. Les rues portent des noms de martyrs. Le calendrier est marqué par le mortuaire, par le martyr. L'autre corps, c'est celui que vous pouvez avoir droit après la mort. Donc vous avez un corps avant de naître, vous avez un corps après votre mort. Mais entre les deux, votre corps est nié. Votre corps est soumis à l'invisibilité, à l'interdit. Il est soumis à la loi du non-dit. Dieu et le sexe sont les deux grands invisibles, cet univers-là. Et je ne pouvais prendre conscience de ma dignité, de mon corps, que parce que j'ai lu des passages érotiques et que j'ai maîtrisé une langue qui me permettait de lire ces passages-là et d'envisager l'étreinte, et d'envisager la rencontre, d'envisager l'orgasme aussi. C'est pour ça que je plaide pour ce corps-là, pour cette fortune-là. J'aime bien donner au mon corps ce synonyme qui n'est pas... Il n'est pas mathématiquement juste de fortune.
Je reviens à des considérations plus légères, mais qui montrent que la lecture est salvatrice, même avec des œuvres dites mineures, puisque votre découverte du français se fait, je précise, je décrypte vos propos à l'instant, s'est faite en découvrant une œuvre érotique de seconde catégorie dans la maison familiale, et que vous avez cherché donc, petit à petit à décrypter mot après mot, c'est ça ?
Oui, pour moi, la découverte de la langue, c'est une aventure autodidacte dans le sens strict du terme. Je devais définir les mots. C'était d'autant plus difficile que je n'avais pas de dictionnaire, mais je n'avais pas quelqu'un autour de moi qui pouvait plus ou moins m'initier à cette langue-là. Mais en même temps, j'avais en moi le besoin de définir cette langue, de la maîtriser. Et je faisais ce que je pouvais. Il y a des mots que je comprenais, d'autres mots que je ne comprenais pas et que je définissais par moi-même, à qui je donnais le sens que je voulais. Souvent, je n'étais pas très loin du sens exact. Mais ça m'a permis un rapport un peu plus libre vis-à-vis de la langue française. J'estime ne pas avoir de complexe vis-à-vis de cette langue. Je l'ai conquise. Elle m'appartient, je l'ai fabriquée, quelque part. Et j'assume ce que j'en ai fait, livre, écrit, opinion, mais j'assume aussi ses incorrections, ses excès de métaphores parfois. Je lui demande ce que peut-être on demanderait à la philosophie, d'être profonde, exacte, absolue, et de provoquer la méditation ou la réflexion.
Lorsque certains vous reprochent, j'imagine, d'écrire en français et pas en arabe, que ressentez-vous ?
Rien, absolument rien. Au début, par politesse, je voulais expliquer. Et par la suite, je voulais être sincère. Et quand on me posait la question pourquoi j'écrivais en français, je disais parce que j'en avais eu envie. Et j'ai compris par la suite que dans ce vaste champ de rente et de confort que sont devenues les études sur le post-colonial, sur l'histoire, une réponse aussi sincère, celle d'un écrivain qui dit que j'écris en français parce que cela me fait plaisir, ne convainc personne. Le désir ne convainc pas dans le champ des idéologies. Donc, on me demandait d'autres explications liées à l'histoire, liées à la guerre que je n'ai pas vécue, liées à un traumatisme, liées à un esprit de vengeance, liées à beaucoup de choses, et je n'avais pas ça. C'est pour moi une rencontre amoureuse. Par la suite, vous rencontrez une personne que vous allez aimer, qui va être le coup de foudre de votre vie, le bouleversement profond. Vous pouvez rationaliser en disant « Oui, je l'ai rencontré parce que j'ai pris tel chemin. J'ai répondu par l'affirmative à telle invitation pour telle soirée. » Mais l'amour procède justement de ce mélange entre le précaire et l'accident, l'absolu et l'accident. Donc la rencontre avec la langue française, c'est une rencontre amoureuse. C'est une rencontre de désir et je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à l'expliquer et je n'ai pas à expliquer pourquoi je suis tombé amoureux de cette femme tout le temps. J'en suis amoureux, je désire, je fais ce que je veux, j'essaie de vivre avec cette passion et de la vivre jusqu'au bout, mais je n'ai pas à me justifier. Je n'aime pas à me justifier généralement de ce que je fais. Et on demande souvent ça à l'intellectuel qui vient du Sud, soit d'expliquer ses passions, soit de les justifier. Je n'ai pas à expliquer, je n'ai pas à justifier, j'ai à écrire par contre.
Vous dites les désirs n'ont pas de place dans l'idéologie. En revanche, répondre comme ça souverainement par son désir souverain, c'est ce qui est le plus corrosif, non ?
Possible.
C'est un univers idéologique.
Oui, mais vous savez, il y a des choses dont on devrait faire le centre de sa propre vie. Par exemple, vous écrivez, vous défendez certaines idées, on vous pose souvent la question, est-ce que vous avez peur ? Oui, mais ce n'est pas le centre de ma vie. La peur, elle est là comme un système d'alerte qui est posé au coin de la pièce, qui m'aident. Maintenant, pour ce que vous dites sur une réponse corrosive, j'ai envie d'écrire, de vivre cette passion. Je n'ai pas envie de passer ma vie à expliquer pourquoi j'ai choisi d'écrire en français. Donc, c'est important pour moi d'écrire, c'est important pour moi d'expliquer, mais pas de m'expliquer. De raconter une aventure, mais pas de me justifier. Il y a quand même une nuance importante entre les deux. Et puis, je suis quelqu'un qui aime défendre l'individu et ses choix.
Cette expression libre, souveraine, de vos opinions, de vos idées, des choix individuels, vous avez lu quelques mésaventures, des attaques virulentes, d'une part en Algérie, avec une fatwa lancée à votre égard, et puis en Occident, version moins dangereuse, mais laïque, ouatée de la fatwa, la pétition. Qu'avez-vous ressenti lorsque, je pense surtout au second cas, lorsque cette polémique s'est déclenchée, c'était après vos écrits sur les agressions sexuelles de Cologne?
Pas uniquement. Alors, je voyais ça venir depuis quelques mois, quelques temps, parce que dès que vous avez de la visibilité médiatique, de la célébrité, dès que vous vous distinguez plus ou moins comme voix qui ne correspond pas au casting de l'intellectuel qui vient du Sud, vous provoquez un effet de meute.
Il fallait quoi comme casting ?
Jouer à la victime de la colonisation, venir se plaindre en Occident, reprocher toute sa misère actuelle à l'Occident d'autrefois, à la colonisation, dire que je suis un homme mort, victime, blessé, et vivre des rangs de sa blessure.
Donc ça convient des deux côtés de la Méditerranée, à la fois au régime algérien et l'intelligentsia.
Exactement. Je ne veux pas de ça, franchement. J'estime que le mérite de la vie vaut plus que ça. Je sais que c'est pompeux de dire les choses, mais c'est ma foi. J'estime que si je suis vivant alors qu'il y a tant de gens qui sont morts, c'est que ça doit avoir du sens quelque part. Et ce sens n'est pas celui de gémir. Je n'aime pas gémir, comme je le dis pour l'introduction. Et donc, au début, c'était assez blessant. Parce que je pars d'une idée que lorsque quelqu'un est de bonne foi, en principe, il devrait être compris, sinon respecté. Mais avec l'âge, on comprend que le monde ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne ni au mérite, ni à la bonne foi. Autre chose, je me suis retrouvé quand même seul. Et la solitude, c'est difficile. Il faut l'accepter à un certain moment. Être mal compris, sinon être un incompris en Occident, et être mal compris et être poussé à incarner la figure du traître dans son propre pays, c'est quand même inconfortable. Et donc ça a été un peu un moment pénible. Je devais consolider mes convictions, mes croyances. Et après, ça ne me dérangeait pas. J'en ai tiré l'idée assez vaniteuse de croire que j'écris sur quelque chose qui fait réagir. Je ne suis pas indolore et incolore, et c'est tant mieux. Mais en même temps, je ne vise pas les sujets polémiques. J'essaie d'écrire sur ce qui me touche, sur ce qui me tue. L'idée de la sexualité, l'idée du voyage, l'idée de l'Occident, tout cela me touche, me préoccupe. Donc j'écris sur ce qui m'est important, ce qui entre dans ma logique, dans ma vision du salut, pour ma personne.
Alors, dans cet élan de défense des corps, de la sensualité, du désir... il y a bien sûr cet ennemi évident, cet adversaire évident, celui qui souhaite le mettre sous le boisseau et qui prend la forme de religion spécifique. N'y en a-t-il pas d'autres aujourd'hui qui pointent leur museau ? Moi, j'étais frappé en lisant la description que vous donniez des monothéismes et de leur rapport au corps, avec les analogies qu'on pourrait y trouver avec l'idéologie transhumaniste. Est-ce que ce sont des choses qui... vous intéresse ce désir de sortir l'esprit, de devenir une pure idée, et d'atteindre à l'éternité aussi. Enfin, il y a des correspondances incroyables.
Bien sûr, mais parce que ce n'est pas une idée neuve. C'est juste une idée ancienne qui a été recyclée avec des apparences, avec un discours nouveau. On a toujours cherché cette transhumance, comme vous le dites, cette transfiguration, cette forme de transcendance un peu New Age, un peu... qui n'est pas consolidé par une philosophie solide, par un système théologique, mais ça a été toujours le cas. Il n'y a rien de nouveau vis-à-vis du corps. J'ai l'impression qu'il y a un retour d'époque, mais un retour de cycle. Il y a des idées qui reviennent sous d'autres formes. Et cette envie de marcher sur son propre corps pour trouver le salut, d'une manière ou d'une autre. On peut l'appeler monothéisme, on peut l'appeler martyr, on peut l'appeler ascèse, mais on peut l'appeler aussi avec des noms nouveaux. Du siècle présent.
Est-ce que c'est pas un symptôme de la montée d'une forme de haine de soi de la part de l'humanité ou de certaines franges de l'humanité ? Une sorte de fatigue d'être, non ?
La haine peut-être.
De fatigue d'être, de lassitude.
Je préfère le mot oisiveté. Franchement, on ne sait plus quoi faire de nos propres corps. Donc on essaie de faire contrepoids par des croyances, par des radicalités. La radicalité est le contraire du corps, justement, de ses équilibres, de son besoin de se reposer, de jouir. La radicalité, c'est un déni du corps, absolument. Et toute forme de radicalité, qu'elle soit un fascisme, un nazisme, un islamisme, je ne sais pas, un radicalisme religieux pour les autres monothéismes, la radicalité, c'est le contraire du corps. C'est une manière de marcher sur son propre corps. Oui, c'est assez frappant aussi. C'est assez frappant que cela revienne. Mais je ne pense pas que ce soit seulement une haine de soi. C'est qu'on ne sait plus quoi faire de ce corps-là. On ne sait plus comment trouver une philosophie qui nous permette de vivre, d'en vivre la brièveté, l'angoissante brièveté, la splendide brièveté aussi. Peut-être qu'au fond, nous n'acceptons pas le temps. Et le corps est l'horloge du temps. Peut-être que nous voulons justement l'éternité pour les uns, la transhumance pour les autres, la radicalité pour les derniers, parce que nous n'acceptons pas le temps. Peut-être qu'au fond, que ce qui nous fait souffrir le plus... c'est le rapport au temps. Les extrêmes chez vous en Occident essaient de remonter le temps, comme chez les extrêmes chez nous. Tout le monde rêve du royaume perdu, de la souche. Les salafistes, le mot lui-même signifie les ancêtres, le retour aux ancêtres. Peut-être qu'il y a une panique face au temps, pas seulement face au futur, ce qui peut se comprendre, c'est face au présent. Le présent est difficile à assumer pour beaucoup, donc... on essaie de revenir, de remonter le temps.
Oui, puis au-delà, sur le... c'est très touchant, c'est le cas de le dire, la façon dont vous mettez en avant la matière, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut respirer, ce qui a des odeurs. Dans l'ensemble de vos ouvrages, les odeurs sont là, les sécrétions, tout ce qu'on peut toucher, respirer, sentir. C'est très sensuel pour ça, au sens le plus vaste et même non sexuel du terme. Il y a un passage qui m'a énormément frappé, c'est celui où vous parlez des selfies qui sont pris dans les musées, justement, et où vous interrogez sur le fait que, est-ce que finalement notre monde, le monde réel, celui dans lequel on vit, celui dans lequel se trouve notre corps et qu'on peut toucher, n'est pas en train de devenir une sorte d'arrière-monde derrière les écrans. Là aussi, ce qu'on retrouve, c'est de la dématérialisation. L'avatar sur les réseaux sociaux finit par avoir plus d'importance et plus supportable que le véritable corps, avec ses misères, son désir qui peut être pesant et des choses comme ça.
Je suis tout à fait d'accord. C'est assez frappant. Ce n'est même plus une sorte de parallèle à tracer, c'est quasiment une réflexion à mener. Nous nous virtualisons et nous devenons beaucoup plus passionnés dans le virtuel, regardez les commentaires sur le net, plus radicaux que dans le monde réel. Et c'est vrai que, je vous disais au début que je voyageais beaucoup. Et à un moment, bien sûr, je suis dans les villes du monde et je fais mon circuit touristique, je vais dans les endroits qui sont les plus connus. Et j'adorais, à un moment, d'un point de vue intellectuel, regarder les touristes, le rite. Comment ils arrivaient à l'endroit, comment ils vivent la notion de pèlerinage et de voyage. Ils arrivent vers le Graal, l'objet. Il vient de Tokyo pour voir une horloge à Prague, mais il ne la touche pas, il ne la regarde pas. Il lui tourne le dos pour se prendre en photo. Et cette façon de tourner le dos au Graal, c'est quand même l'antithèse du pèlerinage. Parce qu'on fait face à la chose que l'on quête. On ne lui tourne pas le dos. On tourne le dos à cela, à ceci, à cet objet que l'on cherche et qui nous a coûté un billet d'avion, peut-être 12 jours de circuit, et tout un circuit de pèlerinage, tout un périple. C'est fascinant, cette dématérialisation du monde aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose que l'on devrait réfléchir, vraiment réfléchir. Et c'est extraordinaire quand on voit ça sur Internet. Je reçois bien sûr beaucoup de messages sur mes pages, sur les réseaux. Et les messages les plus virulents sont ceux qui sont assumés par des pseudonymes. Le pseudonyme n'est pas seulement l'artifice d'une lâcheté. Je pense que c'est aussi l'expression d'autre chose.
Oui, un être qui vit sa propre vie, finalement, c'est ça ?
Exactement. Oui, mais qui démantèle toutes les barrières, qui démantèle le corps, la barrière du corps. Et qui, du corps, ça veut dire rites, sociabilité, rencontres, politesse, savoir-vivre, savoir-faire, tout cela. Tout cela est démantelé, fracassé par le pseudonyme. Le pseudonyme s'affirme lui-même. Et en même temps, ça a installé une sorte de terreur, une sorte d'inquisition dans l'autre sens. L'homme public, l'homme qui a un nom. J'ai un nom et un prénom qui sont publics, qui sont les miens. J'ai peur de ce que je dis sur les réseaux. L'homme qui n'a pas de nom, quand je dis l'homme et la femme, qui n'ont pas de nom, qui ont un pseudonyme, sont devenus des autorités, des puissances. Ils sont des juges d'une véritable inquisition. L'homme connu, l'homme qui assume son identité sur les réseaux a peur de dire. L'homme qui n'assume pas, qui n'a pas besoin, qui n'a plus d'identité, dit ce qu'il veut. C'est une liberté donnée à nos fantômes. Et c'est une injonction apportée au discours de ceux-là qui veulent vivre la même vie dans le réel que dans les réseaux.
Dans les évolutions qui semblent percuter vos aspirations les plus profondes, il y a peut-être aussi une vague plus ou moins ressentie, naissante, ambiguë, forme de nouvelle pudibonderie en Occident. Lorsque vous décrivez les villes d'Occident, vous expliquez à quel point vous êtes frappé par les jeux de séduction, la possibilité de s'embrasser en public. Alors bien sûr, tout cela n'a pas disparu, mais on sent quand même que ce rapport homme-femme, qui est un des éléments constitutifs de notre identité moderne, en tout cas, est aujourd'hui mis à mal. Est-ce que vous le ressentez également ?
Oui, mais mis à mal, sur quelle échelle ? Je veux dire, on ne peut pas dire que...
Ah, je ne veux pas comparer, bien sûr.
Oui, mais justement, moi, je suis entre les deux mondes. La condition de la femme ici n'est pas la condition de la femme en Afghanistan ou en Arabie Saoudite. Mais en même temps, le siècle est le siècle de la femme. c'est le siècle où nous devons réparer cette masculinité, enfin, réparer l'homme aussi, cette vision de l'homme, mais aussi c'est le siècle de la femme. Et à différentes échelles, on se pose peut-être les mêmes questions, pas avec les mêmes factures, mais ce qu'on veut imposer à la femme dans vos géographies, toute mesure gardée, observée, c'est ce qu'on veut imposer de l'autre côté. Je l'avais écrit dans une chronique, en allant vers la formule la plus courte, la plus abusive parfois, c'est qu'ici, on voit la femme par son corps, et de l'autre côté, on voile le corps de la femme. Mais il s'agit du même voilement, du même déni, du même refus de voir l'autre dans son altérité.
Au-delà du rapport homme-femme, dans votre ouvrage « Le peintre dévorant la femme », on s'est concentré un peu sur les aspects comparaison Orient-Occident, mais c'est aussi une merveilleuse analyse de ce qu'est la sexualité dans ses mystères les plus profonds et parfois les plus choquants. Hein. Vous faites une analogie entre la sexualité et le cannibalisme. Enfin, c'est quelque chose aussi de violent, de beau, mais de violent, la sexualité. Est-ce qu'il y a pas une forme de très ancien certainement, mais revitalisé aujourd'hui sous de nouveaux atours, de déni et de refus de ce qu'est la sexualité aujourd'hui?
Je suis d'accord. Ce n'est pas de refus, c'est plus pernicieux que ça. J'ai l'impression qu'il y a une lutte de monopole. C'est-à-dire, qui a le monopole pour parler de la sexualité du corps et de l'au-delà? Les religieux, les radicaux, les conservateurs. Mais dès qu'un intellectuel commence à en parler, on trouve cela soit outrageant, soit singulier, soit étonnant, mais jamais normal. J'ai ce rapport dans mon propre pays. Dès que je commence à écrire sur la sexualité, je reçois du courrier, des réactions me disant « Mais M. Daoud, vous en êtes obsédé. » Et chaque fois, je réponds par la même manière. Enfin, là, j'apporte la même réponse en disant « Si j'ai bien compris, lorsque Kamel Daoud ou d'autres parlent de la sexualité, ça fonctionne comme une obsession, mais un religieux peut légiférer sur la mort et la sexualité tous les jours, chaque vendredi, sans que l'on trouve cela scandaleux. » C'est-à-dire, finalement, c'est une lutte de monopole. Je veux parler de mon corps, et on me le reproche. Pourquoi? Et qui me le reproche? Ceux-là qui veulent parler de mon corps à ma place. Et c'est une guerre de possession et de dépossession. Ils veulent me posséder. Ils me disent être possédés. Mais moi, je veux être le propriétaire de ma propre personne. J'ai le droit de parler de ce qui me bouleverse, mon orgasme, ma sexualité. J'ai le droit de parler de mon corps parce que c'est le seul instrument que j'ai découvert pour rencontrer l'autre. Si j'étais un fantôme, je n'aurais pas pu embrasser. Donc, le problème n'est pas dans le fait que j'en parle, mais ou qu'il y a un retour de discours conservateur sur la sexualité. C'est au fond une guerre de monopole. Certains cercles, certains courants, certains idéologues, certaines tendances, certaines théologies veulent garder le monopole du discours sur la mort, le rite et la sexualité. Moi, je les appelle les courtiers. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un que j'aime, que je désire, qui me désire, et soudain, brusquement, jaillit entre nous deux, à l'instant même dans notre étreinte, les temples, les courtiers, les juges, les moralisateurs, les bien-pensants, les éditorialistes, tout le monde veut s'immiscer dans mon étreinte. Et moi, je ne veux personne entre moi et l'autre. Je ne veux personne. Je ne veux ni loi, ni intermédiaire, ni courtier.
Vous êtes souvent comparé à des écrivains venus de l'Est, qui vivaient aussi dans des situations où la prise de parole était difficile. En vous entendant, facile à dire pour nous, me revient la phrase de Solzhenitsyn qui disait « Si chaque Russe avait simplement pris la parole, librement, même dans la sphère privée, le communisme se serait effondré. » Est-ce que vous avez le sentiment que finalement l'enjeu se situe là, reprendre la parole, pour commencer ?
Tout à fait d'accord. Et je suis vraiment bouleversé par cette phrase. Parce qu'elle est simple, mais elle est exacte. Et j'aime que la langue traduise avec exactitude les choses obscures, les ombres et les idées. Et elle est très juste. Le souci, le problème, n'est pas que certains soient plus courageux que d'autres ou savent mieux dire ou écrire que d'autres. C'est qu'ils ont décidé de prendre parole et donc de briser ce silence-là et cette unanimité du silence, cette complicité, cette soumission. Donc, je suis tout à fait d'accord. Si on se mettait tous à parler, à écrire, à dire, on mettrait fin à ces formes de totalitarisme qui se réincarnent, qui reviennent de temps à autre. Qu'est-ce qu'il y a au fond du totalitarisme? Il y a l'unanimisme, il y a l'uniforme, il y a l'uniformisation, il y a l'unique, il y a la pensée unique, il y a le parti unique, le Dieu unique. C'est le contraire de notre humanité qui est plurielle. Donc, la phrase, elle est bouleversante. Je vais la retenir.
Mais écoutez, en tout cas, merci de parler souvent en notre nom et de porter cette parole qui émancipe vraiment. Et j'insiste sur ce terme, vraiment, parce qu'elle met le doigt sur des choses qui sont en dehors des cadres habituels et va au fond des choses. Je ne peux qu'inciter, car c'est bien de parler, mais il faut aussi être écouté, j'espère que nous le sommes, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut aussi lire et commencer par vos ouvrages. Je redonne la référence de quelques-uns, sachant que sur le site internet, bien sûr, on pourra en retrouver l'ensemble de la bibliographie. Dans l'ordre de parution, si je ne me trompe pas, Meursault, contre-enquête, aux éditions Actes Sud, collection Babel, c'est ça ? Ensuite, il y a eu Zabor ou les psaumes, Actes Sud également, Mes indépendances, les chroniques, Actes Sud toujours, et puis Ma nuit au musée, chez Stock, cette fois, dans la collection. Donc Ma nuit au musée, le peintre dévorant la femme, Kamel Daoud, merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.